m'appelle Adela. Je m'appelle Zira. Je viens du Soudan.
Je m'appelle Chinois Rikale.
J'étais dans Jeanne de Cali.
Je m'appelle Jeanne Claire.
Je vous présente, je m'appelle Adam Abdullah.
We are from Yemen.
Je m'appelle Ali.
Je suis originaire tchadien.
Merci, monsieur le préfet. Vive la France.
La France a une responsabilité. L'État a une responsabilité. Et cette demande de protection doit se traduire par une intégration rapide dans notre pays. C'est à notre portée.
Mise en valeur des parcours d'intégration, c'est ainsi que se nomme la présentation à la préfecture de réfugiés fraîchement élus au titre de citoyens français. Un moment qualifié d'exceptionnel par le préfet Sudry, une opération de communication qui ne porte pas à conséquence, l'occasion de se pencher sur les conditions d'intégration des étrangers en France et dans le bassin minier. Avant même l'interview du préfet interviewé pour l'occasion, écoutons le témoignage de Jeanne Claire, réfugiée congolaise, qui témoigne de son expérience d'intégration.
Je m'appelle Pansinga Jeanne Claire. Je viens de la République démocratique du Congo. Et actuellement, je vis à Liévin. Pour ma part, je me sens très bien intégrée parce que d'ailleurs, dès mon arrivée, je me suis sentie bien accueillie partout où je suis passée, depuis Lille jusqu'ici à Liévin, là où je suis. Je suis bien accueillie par les responsables du centre d'hébergement des demandeurs d'asile et aussi avec tous les référents. Je me sens bien ainsi que tous les résidents du centre. J'étais à Lille, alors il fallait aller dans un centre de demandeurs d'asile. Alors on n'avait pas trouvé d'endroit. C'est comme ça que je suis arrivée. Parce qu'en quittant de chez moi, je ne savais pas là où aller. J'étais hébergée avant par des familles françaises qui m'ont accueilli dès mon arrivée et jusqu'à ce que j'ai intégré le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Les critères d'une bonne intégration, c'est l'apprentissage de la langue du lieu, aussi s'intégrer dans la vie sociale, milieu de, et dans le travail, et avoir aussi un logement fixe. Chez nous, on a souvent dit que quand tu sors de chez toi, tu vas ailleurs, il ne faut pas d'abord commencer à pêcher, il faut d'abord observer et voir comment les autochtones pêchent avant de le faire. Ça, c'est pour bien dire, quand on vient avec nos cultures, mais quand on arrive dans une autre culture, il faut d'abord observer afin de commencer à s'intégrer petit à petit et puis à vivre aussi les valeurs qui sont propres à eux. C'est ça la vie. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas la langue. Je dois faire tout pour apprendre la langue et parfois, certains n'ont pas la capacité de maîtriser cette langue. Alors, il faut s'intégrer. Et puis aussi dans la façon de vivre qui n'est pas les nôtres. Il faut faire les sacrifices pour s'introduire afin d'arriver à collaborer. À collaborer avec tout le monde, parce que si on vient tel qu'on vient, on peut dire brut, et on veut vivre toujours comme ça, ça ne va pas tellement tenir. Je peux dire à mes concitoyens ou d'autres demandeurs d'asile qui sont déboutés, maintenant qui peinent, qui ne peuvent rien, en tout cas je pense pour eux, parce que d'abord, le voyage qu'ils ont fait et toutes les souffrances rencontrées sur la route, à maintenant les renvoyer encore à la frontière, telle que le ministre de l'Intérieur est en train de demander. En tout cas, pour moi, ça me fait très très mal.
Monsieur le Préfet, un petit mot de cette cérémonie. Qu'est-ce qu'elle représente déjà pour commencer ?
Je crois que c'est une cérémonie qui est un moment un peu exceptionnel finalement et peu ordinaire, où nous avons pu entendre le témoignage de personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés dans notre pays, qui sont originaires de très nombreuses contrées du monde, on l'a bien vu, et qui sont accompagnés par des collectivités, par des associations, par des employeurs aussi, qui les intègrent dans la vie professionnelle, et qui nous ont dit qu'ils ou elles étaient tout à fait désireuses de continuer à vivre dans notre pays, d'accéder à l'emploi, d'accéder au logement, de mieux parler la langue française. Et donc, je crois que pour moi, pour l'État, c'était important de mettre l'accent sur le parcours de ces personnes, parce que nous avons une responsabilité. La France a une responsabilité, l'État a une responsabilité pour ces personnes qui ont reçu notre protection après une demande d'asile effectuée dans notre pays. Et cette demande de protection, elle doit se traduire par une intégration rapide dans notre pays.
L'État a des responsabilités, c'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, on aura aussi des procédures un peu moins longues par rapport au dossier de demande d'asile.
Oui, l'un des objectifs de l'État, c'est d'accélérer la demande d'asile. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des durées très longues qui placent les gens en situation inconfortable, dans une attente difficile à gérer, qui coûte d'ailleurs assez cher sur le plan de l'hébergement aussi. Donc l'idée est vraiment de raccourcir de manière rapide, enfin substantielle, l'instruction de la demande d'asile. Le processus a déjà commencé. L'objectif du gouvernement est de passer de 18 mois en moyenne aujourd'hui dans l'instruction des demandes d'asile à 6 mois dans l'année qui vient.
Justement, sur la question de la simplification de la procédure de demande d'asile, est-ce que ça favorisera pas également le nombre de reconduites à la frontière ?
Non, il n'y a pas d'objectif. Les deux sujets ne sont pas directement liés. Notre pays doit à la fois répondre à ses valeurs, à ses responsabilités pour reconnaître et assurer la protection de celles et ceux qui, dans leur pays d'origine, sont confrontés à des difficultés très sérieuses. C'est la tradition de la France, de l'Europe d'ailleurs, que d'accueillir ces personnes et de le faire dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Donc je crois que c'est ça l'objectif. Et par ailleurs, pour celles et ceux qui ne relèvent pas de cette protection, il y a d'autres voies qui peuvent être naturellement mises en œuvre.
S'il y a cette cérémonie, est-ce que ça implique le fait qu'il y ait des nouveautés, nouvelles directives dans le parcours d'intégration, dans le système d'intégration ?
C'est aller plus loin, se mobiliser plus, favoriser une approche plus coopérative des acteurs et considérer que c'est une priorité. D'intégrer les réfugiés, c'est une priorité pour tout le monde. On en a la capacité. C'est tout à fait à notre portée.
Est-ce que la priorité, c'est pas d'abord, de prime abord, l'accueil qui, on le voit dans la région, notamment à Calais ou dans certaines jungles, laisse parfois à désirer ?
Oui, bien sûr, c'est tout à fait lié. Il faut que l'État puisse offrir une possibilité de mise à l'abri dans de bonnes conditions aux populations migrantes qui arrivent souvent dans notre pays et notamment dans le département, après des vies et des parcours difficiles, bien sûr. C'est d'accueillir. C'est pour ça qu'il y a des créations de centres, de places qui permettent d'héberger les personnes dans des conditions qui sont normales.
Alors justement,
encore faut-il qu'elles le souhaitent, bien naturellement.
Alors justement, par rapport à l'année prochaine, pour les CIAO, on aura du changement. On sait que celui de Trois-Vaux, il va fermer notamment.
Oui, le centre de l'abbaye d'Elval va fermer. Donc il nous faudra trouver des places en remplacement. Donc, nous sommes en train d'examiner cette question avec dans le département. Je n'ai pas d'inquiétude particulière.
Eric Flitz, directeur de l'APSA, Association pour la solidarité active du Pas-de-Calais, interrogé dans les bureaux du CADA de Liévin, nous livre une vision plus lucide et plus mitigée des conditions d'intégration des réfugiés. Il est souvent donné un peu trois critères d'intégration, le logement, l'apprentissage de la langue française et l'emploi. Pour accéder à ces trois éléments, est-ce que les moyens mis en place sont suffisants ?
Je vais aborder la réponse par un autre angle. Quand on arrive en France pour demander l'asile, il y a toute une démarche à effectuer. On fait une demande d'asile, il y a une gestion faite par l'État qui oriente vers les centres de demandeurs d'asile. Et quand on y est, on peut instruire cette demande d'asile pour obtenir le statut de réfugié. D'abord, ça n'est pas simple. C'est très difficile d'obtenir ce statut et ça nécessite un travail qui est fait par les personnes qui formulent cette demande, accompagnées par les travailleurs sociaux qui œuvrent dans ces centres d'accueil. Ce sur quoi je veux interpeller l'État et interpeller les gens et l'opinion publique en général, c'est que oui, on vient en France pour avoir un statut de réfugié. Quand on a le statut de réfugié, il faut s'intégrer par le logement, par le travail, et puis par une situation administrative qui soit adéquate. On fait le bon citoyen, on reconstruit le bon citoyen. On oublie juste une petite chose, c'est que quand on quitte son pays dans des conditions qui sont difficiles, on vit un vrai drame. La plupart des gens qu'on accueille dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile et dans les autres dispositifs qui préexistent avant la demande d'asile ou après la demande d'asile, tous ces gens ont vécu un drame, une dramaturgie qui est exceptionnelle. Moi, je fais souvent référence à 1940 ou à 1939, quand les Français étaient sur les routes et quand ils avaient besoin de quelque chose, qu'ils se souviennent de l'histoire, les Français, quand ils portent un regard sur la migration aujourd'hui et sur les migrants aujourd'hui, qu'ils se souviennent combien c'était difficile et comment c'était dangereux à l'époque. Aujourd'hui, les gens qu'on accueille ont des histoires de vie qui sont dramatiques. Travailler, oui. Comment je fais pour trouver un travail quand je n'ai en tête que la tête de mon fils que j'ai récupéré dans un sac quand mon fils avait 4 ans, qui a été décapité quand je viens du pays dans lequel j'ai été torturé? Comment je fais pour travailler si je ne traite pas cette difficulté-là? On a bien sûr des moyens dans les centres d'accueil pour travailler. On a des travailleurs sociaux pour instruire les démarches, pour vivre la quotidienneté, pour travailler la langue. On oublie la dimension psychotraumatique qui n'est pas suffisamment mise en avant pour qu'elle soit suffisamment traitée par les spécialistes de ça. Alors nous, ici, au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Lens, base d'Alievin pour le coup, on a quelqu'un qui intervient, mais quelqu'un qui intervient une journée par semaine pour 98 personnes. Toutes n'ont pas le même niveau de dramaturgie, mais toutes ont une histoire dramatique. Et donc toutes ces personnes ont besoin de parler et besoin d'être entendues. Mais comme les équipes qui ne sont pas formées pour ça, elles ont elles aussi besoin d'être professionnalisées là-dessus. Si ça, c'est pas traité, on pourra mettre tous les logements qu'on veut à disposition, on pourra mettre tous les travaux, les emplois qu'on veut à disposition, ça sera peine perdue. Mais ça, c'est pas spécifique à une population de demandeurs d'asile. Tout être humain qui a dans son histoire de vie un drame, s'il ne traite pas le drame, il ne pourra pas avoir une vie dite normale. Et bien c'est exponentielle et à l'échelle XXXXL pour les gens qui ont quitté leur pays et qui ont 13 000 km dans les lattes et qui doivent arriver là en se disant « Oui, super, je fais une demande d'asile, on va me traiter, ça y est, je suis réfugié, il faut que je m'intègre. » Ok, on a des exemples comme Jeanne Claire qui ont été interpellants, mais tout le monde n'a pas la ressource de Jeanne Claire. Tout le monde n'a pas cette ressource et cette force interne pour le faire. Et il faut du temps. Il faut du temps pour travailler ça. Je pense que dans la démarche de la demande d'asile, oui, il faut penser logement, travail, famille, patrie, un peu cet estampillonnage AOC, vous savez, comme on dirait, pour être un bon citoyen français, il y a une appellation d'origine contrôlée, il faut avoir un travail, il faut avoir un logement, il faut qu'administrativement tout soit fait. Ok, super, mais et l'histoire de vie, quoi? Comment est-ce qu'on aide ces gens à reconstruire une vie et une histoire de vie qui leur permettent justement d'obtenir cet estampillage-là AOC?
Alors effectivement, là vous insistez sur la dimension psychologique qui est un peu mise de côté dans justement ces parcours d'intégration. Quand on se projette, on a un peu également l'impression que c'est la dimension sociale aussi qui est mise de côté. C'est-à-dire que même si moi j'ai l'impression que même si on coche les cases de l'emploi, du logement et de la langue française, ça ne veut pas dire qu'on est socialement intégré, accepté et qu'on a une vie sociale, on va dire, épanouissante. Et peut-être même pas suffisante.
effectivement, on fait une demande d'asile, on est accueilli dans un CADA, mais quand on en sort, on restera peut-être pas forcément dans le bassin dans lequel on a été accueilli. Et l'orientation en CADA, même elle, peut être faite, elle peut avoir été formulée à Lille, mais comme c'est une gestion nationale, on peut être envoyé à Marseille hein, pour être accueilli. Donc, commencer un travail à Lille pour le poursuivre à Marseille, non, ça marche pas. On construit un travail à Lille, on l'arrête et on recommence à Marseille. Donc ça, c'est une complexité. Il y a peut-être quelque chose à apporter au niveau de la gestion, peut-être plus régionale de ces difficultés-là. Mais bon, c'est pas l'urgence. Dans chaque centre d'accueil de demandeurs d'asile, on travaille sur deux dimensions dès l'entrée, dès l'accueil de la personne. On travaille sur l'espoir d'obtenir le statut de réfugié, mais aussi sur le désespoir de ne pas l'obtenir. C'est une vraie difficulté pour les personnes qu'on accueille. Je travaille sur ce que j'ai envie, sur le statut dont je rêve pour pouvoir recommencer ma vie, malgré toutes les difficultés, mais en même temps, je dois me projeter sur « et si ça n'arrive pas ?» « Et si l'État ne me reconnaît pas le droit d'être un réfugié ?» Comment est-ce que je vais travailler? Et ça, c'est cette dimension sociale que vous abordez. Il est évident qu'une fois qu'on est accueilli, la personne a un travail à faire sur son environnement, sur son relationnel environnemental, pour que les enfants puissent aller à l'école, soient bien intégrés à l'école, pour que dans les réseaux de bénévoles autour de l'action, c'est-à-dire les Restos du Cœur, le Secours Populaire, enfin, toutes ces actions qu'on peut trouver autour de notre travail social, tous ces gens-là puissent, que toutes les personnes accueillies en attente d'un statut puissent dresser autour d'elles un réseau qui fera que, si ça se passe bien qu'il y a un statut de réfugié, il y a déjà des gens autour, il y a déjà des relations amicales, parfois, en tout cas, il y a déjà des relations, et on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Mais quand on est débouté du statut, il faut aussi avoir un réseau autour de soi, parce qu'on va sortir du dispositif. Et comment est-ce qu'on sort du dispositif? Parce que oui, on peut éventuellement être hébergé après dans un centre d'hébergement d'urgence, parce que la conditionnalité de l'accueil des hébergements d'urgence fait que si quelqu'un tape à la porte, on le laisse entrer, on le fera rentrer. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Quand il y a de la place. Le fait est qu'il n'y a pas de place partout. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ces gens sont à la rue. Alors on ne tolère pas que les Français soient à la rue, on ne tolère pas que les étrangers soient à la rue. Enfin, la misère n'a pas de couleur, quoi. La rue, c'est la rue et c'est difficile à vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, le niveau social et la prise en charge sociale fait qu'on a le temps de la demande pour construire des compétences avec les gens, mais ces gens ont aussi des compétences relationnelles à construire pour dresser autour d'eux un vrai réseau de soutien pour une demande, enfin un statut positif et continuer à vivre de façon épanouissante, ou pour, en cas de refus, trouver des solutions pour ne pas avoir à être reconduit dans un pays qui serait un pays où la vie serait encore plus difficile.
Est-ce qu'on ne peut pas craindre la mise en place d'un vaste système de tri qui permet d'écrémer une population et des flux migratoires croissants?
Des tris, entre guillemets, enfin, je ne vais pas en parler comme ça, mais il y a dès les hotspots, dès les pays en difficulté, des hotspots sont élaborés sur les territoires pour que les gens qui sont accueillis là-bas puissent déjà formaliser une demande, et la bonne demande. En France, il existe, alors, certes, il y a les jungles et autres camps, je dirais, sauvages, hein, sauvages entre guillemets, bien entendu, hein, je veux dire non contrôlés. C'est, dans ces camps-là, je pense qu'il y a des équipes de maraude qui vont chercher, qui vont à la rencontre. Après, il existe aussi des dispositifs, hein, que ce soit CAES, CAO, il existe des dispositifs que nous-mêmes on appelle des gardes de triage, hein, soyons clairs, où les gens peuvent se reposer et prendre le temps, dans une certaine dignité, de formuler une demande. Est-ce que je veux effectivement demander une demande d'asile à la France ou pas? Parce qu'il faut pas se voiler la face. L'Angleterre reste l'Eldorado, en tout cas est vu comme étant l'Eldorado. Tant qu'on n'aura pas construit un pont piétonnier de 33 km entre Calais et Douvres, on aura toujours cette problématique-là, quoi qu'on fasse. Alors oui, je pense que là aujourd'hui, on cherche à mettre la offrir la possibilité du choix. Alors, ça dépend de où on se situe, c'est toujours pareil, et de la façon dont c'est fait. Mais il faut que, effectivement, toutes ces personnes puissent le formuler ce choix-là à un moment donné, et dans une certaine dignité. Quand on est dans un camp à Calais, quand on est dans un camp à Grande-Synthe, etc., enfin, non, c'est le camp actuel de Grande-Synthe, forcément, on n'est pas dans une situation suffisamment digne de sécurité, d'humanité pour formuler et pour réfléchir à sa situation et pour formuler le bon choix. Là, on voit fleurir des CAES dans des hôtels, il n'y a pas d'accompagnement ou très peu, enfin, c'est... Voilà, ça c'est de la poudre aux yeux. Hein. Ça c'est de la poudre aux yeux, alors que quand il y a des CAO qui permettent au moins un mois d'attente de reprise en cours de reprise en main de sa vie pendant un mois où on est hébergé, alimenté et où on peut dormir dans un lit, dans une chambre seule avec une douche, rien que ça déjà, ça permet de reformuler son choix. J'y vais ou j'y vais pas, je veux aller en Angleterre, je veux pas aller en Angleterre. Il faut que ça soit géré de façon humaine. Je pense que le gouvernement actuel a des velléités de ça, en tout cas c'est affiché comme ça. Alors c'est sûr qu'une manifestation comme hier, on dit « Alléluia, regardez, il y a des gens qui s'intègrent ». Oui, enfin, pendant qu'il y en a 3 qui s'intègrent, il y en a 700 qui crèvent la faim à Calais. Donc il y a des situations qui nécessitent qu'on retrouve de l'équilibre. Encore une fois, mais c'est comme pour tout à chacun ici en France, il faut qu'on puisse faire entendre sa voix. Il faut que quelqu'un puisse entendre ce qu'il dit dans les meilleures conditions possibles. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour tous les SDF de France et de Navarre. Si on ne va pas les voir, s'il n'y a pas des gens qui vont à leur rencontre pour entendre leurs choix, leurs décisions et leurs envies, on n'aura pas de résultat. On n'aura pas de résultat. Et on peut ouvrir tous les dispositifs possibles et imaginables. Et on peut le faire de toutes les façons plus ou moins brusques, imaginables. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours à la marge quelqu'un qui aura besoin d'être entendu une fois qu'il sera sur site. Alors oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers les équilibres. Il y a déjà des systèmes qui s'équilibrent, mais on peut en requérir plus d'équilibre. Tout le monde n'a pas envie de rester en France. Comment va se positionner l'Angleterre comment se positionne l'Europe face à l'Angleterre par rapport à cette problématique-là? Parce qu'on peut accueillir, on peut remplir les quotas, on peut faire tout ce qu'on veut. Sauf que quand on veut aller en Angleterre, on va en Angleterre. Quoi. Donc, que l'Angleterre joue son rôle aussi. Hein. On regrettera peut-être les accords du Touquet. Mais voilà.
C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier. Retrouvez toutes nos émissions et reportages sur microrebelle.fr.